Brume 90.7 en direct, il est 18h30 et c'est le moment de notre confluence cinéma avec messieurs Raphaël Lorenzo et Hakim Daouche. Bonsoir à vous messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir à vous tous auditeurs.
Alors, nouvelle émission Confluence Cinéma, et ce soir on va parler de pas mal de choses. Dans un premier temps, on reviendra sur les films de la semaine, que notamment vous avez vu à Cannes. Donc il y a Search, Mr. Turner et Alléluia.
Entre autres, oui.
Entre autres. Deuxième partie, ça sera plutôt une discussion autour du film La French que vous êtes allés voir tous les deux.
Mmh. Un film qui n'est pas sur la manicure, hein, je tiens à le dire.
belle, il est en forme, ouais, notre ami Lorenzo.
J'aime bien les jeux de mots pourris comme ça.
Et dernière partie, là ça sera plus un pan historique de l'histoire du cinéma comme souvent et à l'occasion de la rétrospective Elia Kazan, c'est ça,
à l'Institut Lumière. Oui.
On parlera un petit peu de ce grand réalisateur qui a aussi été acteur, metteur en scène de théâtre.
Et très controversé. Hein.
Très controversé, notamment pour ses prises de position politique et ses actes pendant le McCarthyisme. Voilà, tu présenteras aussi un livre, Hakim.
Oui, le cinéma en partage, un entretien avec Michel Simon, grand journaliste de cinéma à Positif.
Allez, ben, on attaque par les films de la semaine. On va dire quelques mots de Search, mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé pendant le Festival de Cannes. On avait retouché aussi un mot quand il y avait eu l'avant-première à Lumière. Et c'est vrai que les médias en parlent beaucoup. Donc Raphaël, tu vas juste nous dire un petit mot sur ce que tu avais pensé du film à l'époque, toi.
Ben alors oui, The Search, donc remake du film de Fred Zinnemann, Les Anges Marqués, hein, je crois que c'est 49, la date du film original. Et Michel Hazanavicius, pour ceux qui m'écoutent sur Radio-Days, savent que je suis quand même un gros fan de ce metteur en scène, hein, qui est devenu donc extrêmement populaire avec The Artist. Hein, il a gagné le...
Il est déjà au SC 117 avant.
Oui, mais là, pour le coup, il est exposé sur la scène internationale.
Oui.
Ce qui lui a permis donc de déployer ses ailes en quelque sorte et vraiment de faire un projet qui était cher à son cœur, hein, qu'il voulait faire depuis donc très longtemps, qui était donc The Search. Et The Search est un film qui a beaucoup été effectivement traité à Cannes, je me rappelle, là-bas au mois de mai. Hein.
Alors pour précision, moi j'étais déjà parti. Hein. Et tu l'as vu dans une version de 2h30, alors que la version, alors je ne sais pas si cette version-là qui était au Festival Lumière, mais la version qui est sortie la semaine dernière.
C'est une version courte, oui.
Courte d'un quart d'heure.
Il y a 17 minutes, effectivement.
17 minutes.
Et le film a beaucoup déçu, justement, par rapport déjà à sa longueur. Hein. C'est un truc tout bête, mais c'est un film qui retrace donc, plusieurs destins pendant la guerre du Kosovo. Donc on suit le destin d'une agent de l'ONU incarnée par Madame Hazanavicius, donc Bérénice Bejo. On suit le destin d'un jeune soldat qui va basculer progressivement dans une vague de violence, un peu à la Full Metal Jacket. Hein. Il va devenir une sociopathe, voilà, une machine de guerre. Hein. Et on suit le parcours surtout d'un petit gamin qui est orphelin et qui recherche en fait... sa sœur, enfin non, c'est l'inverse, c'est sa sœur qui le recherche lui, hein. Il a perdu ses parents devant ses yeux, mort dans le conflit, etc. Et pour le coup, voilà, c'est un film qui est très décent dans la mesure où, pour la première fois de sa carrière, Hazanavicius, en fait, se prend au sérieux, quoi. Il livre un mélo, vraiment très mélo, pour le coup, qui va avec les gros sabots, hein, qui est très larmoyant, qui est, ma foi, assez mal joué, quand même, de la part de Bérénice Bejo. Hein.
Qui a été assez mal accueilli par la critique, hein, là, ce que j'entendais depuis quelques jours, c'était quand même assez cinglant, quoi.
Alors moi j'ai une question, moi j'ai pas vu le film malheureusement, j'aurais bien voulu le voir pour en discuter avec toi, mais est-ce que tu dis que c'est la première fois qu'il ne se prend pas au sérieux, mais qui se prenait pas au sérieux quand il faisait OSS 117 ou The
Artist? Parce que j'ai déjà vu son premier film, La Classe Américaine, oui. Je peux te dire que c'est vraiment de la grosse déconnade.
Oui, mais OSS 117, je l'ai vu,
et ça
peut être de la déconnade, mais être pris au sérieux, ça je comprends pas ce critère.
Mais évidemment,
non, mais ce qu'il y a, c'est que là il veut faire un grand film.
Exactement.
Un grand film qui va toucher les gens pour l'esprit comme ça un peu mélo, un peu pathos et voilà, c'est peut-être en ça que
c'est exactement
que tu voulais
ça. Après,
je me demande
se montrer metteur en scène.
Alors après, moi, comme je le dis une seconde fois, j'ai pas vu le film, mais tous les retours que j'ai qui sont tous négatifs les uns des autres. Il y a une seule personne qui défend le film, mais c'est pas n'importe qui, c'est Thierry Frémaux qui l'a programmé. Il le dit de partout qu'il faut absolument le voir et que ça marche pas du tout, mais c'est génial. Peut-être que
Thierry Frémaux qui arrive toujours après la guerre, parce Hazanavicius, The Artist, il a plus ou moins mis The Artist, on se rappelle à l'époque, au dernier moment, sous la pression des Weinstein, on le sait aujourd'hui. Et The Artist et OSS, pardon, étaient complètement passés à travers
certes,
à l'époque des bancs de la critique.
Certes, là, mais là n'est pas le problème. Moi, qui vous dit que dans quelques temps, les critiques ne reverront pas leur avis, se diront « Ah, on n'était finalement pas préparé à avoir un virement à 380 degrés à ce point-là. » Bon, encore une fois, je dis, je n'ai pas vu le film. J'ai vraiment envie de le voir pour justement voir à quoi m'attendre.
Moi, je trouve ça un peu louche. Après, ce que j'ai beaucoup entendu, et je pense que c'est une réalité quand on traite quelque chose de, comme ça, c'est Azanavicius, c'est quand même pas non plus un réalisateur extrêmement cérébral et qui a une culture. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de qualité, mais
la culture cinématographique, il l'a.
Mais par contre, quand c'est ça, il faut quand même avoir une culture géopolitique, historique. Quand on parle aussi d'un conflit comme ça, même s'il y a une histoire dedans autre. Et voilà, et moi, c'est aussi des critiques par rapport à ça que j'ai entendues.
Il se prend doublement l'épée dans le tapis, justement, sur ce que vient de dire Amaury. Il a pris un sujet qui est peut-être trop grand pour lui, déjà à la base. Et c'est la première fois, surtout, où il n'arrive pas à digérer ses références. Azanavicius est un grand, grand cinéphile. On le voit depuis La Classe américaine. On l'a vu avec The Artist. On l'a vu avec les films muets avec... avec OSS 117 et après les films muets avec The Artist. Hein. Et là, pour le coup, il y va avec les gros sabots. Donc, Full Metal Jacket est refait à l'identique.
La scène tondeuse.
Elle y est effectivement dans le film. Au bout d'un moment, le petit gamin trouve une chaîne IFI. Il passe une musique. C'est Voyage au bout de l'enfer. Enfin, c'est vraiment des clins d'œil, mais super appuyés. Quoi, et qui dénotent par rapport à un mélodrame qui devrait être vraiment dans l'émotion, pour le coup. Quoi.
D'accord, eh ben, on va passer à un autre film parce qu'il y en a pas mal cette semaine et que vous avez vu tous les deux à Cannes, c'est Mr. Turner.
Oui, je veux bien te laisser en parler parce que moi je ne l'ai pas vu. C'est pas vraiment une biographie, bon, même si peut-être revoir la notion
un biopic,
de. Faut revoir un peu la notion de qu'est-ce qu'un biopic, est-ce que c'est un film qui part du début de la naissance jusqu'à la mort. Bon, on nous propose une partie de la vie de ce peintre, Mr. Turner. Moi j'ai pas vu le film depuis quelques temps déjà, donc
c'est le premier film qu'on a vu avec
je crois que c'est le premier film qu'on a vu. On sait que le réalisateur après a eu le prix Intervention Masculine. Bon, moi je mets un petit
l'acteur.
Bémol, l'acteur pardon,
Timothy Spall, hein,
ouais, mais franchement autant le film dans mon souvenir a le mérite d'avoir une très belle photographie, justement jouer avec la peinture parce que c'est un film sur la peinture, et donc du coup là les films sur la peinture il y en a eu et il y en aura encore, mais c'était plutôt bien traité, hein. Justement il y a parce que c'est un artiste qui y a une séquence dans mon souvenir qui m'avait bien interpellé, que j'avais trouvé vraiment jolie, où le Mr. Turner apporte une peinture dans une galerie, il décide à la dernière minute de la reprendre ou de la retraficoter.
Oui, il met un gros point rouge au milieu de la mer, voilà. Et personne ne comprend, il dit « mais vous avez détruit votre œuvre », il fait « non, la bouée ». Manque la bouée. Et c'est un vrai grand peintre. Et je trouve, moi, pour le coup, voilà, que Timothy Spall l'incarne très
bien. Il passe son temps à grogner. Bon.
Ouais, mais il le fait bien.
Ouais, mais on a vu d'autres films en sélection de Cannes où des acteurs méritaient d'avoir ce prix convoité. Bon,
on l'a évoqué avant l'émission, effectivement Steve Carell pour Foxcatcher qui sort je crois au mois de janvier ou février, ils l'ont encore décalé là le film, aurait mérité effectivement le prix d'interprétation, mais
ou l'acteur de Mommy, c'est ce que je pense de Mommy, mais
voilà. Je préfère quand même Timothy Spall quand même. Non, je trouve que c'est pas volé, voilà. Il y a peut-être d'autres interprétations qui auraient pu être récompensées, mais lui
le film est
je trouve très bon.
Le film est un petit peu long, il fait 2h30, un peu comme les films qui sortent en ce moment, c'est un peu la mouvance.
Oui, c'est à tous les films maintenant.
Mais bon, après, c'est un film de Mike Leigh, donc les gens qui adorent cet auteur britannique, qui avait été couronné par une Palme d'Or pour Mensonge.
Je sais pas du tout.
Je ne sais plus non plus.
Je suis pas un gros. Oui. Par contre, c'est drôle. J'ai une anecdote là-dessus. J'étais à Londres il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, et je suis allé au British Museum. Et sur qui je suis tombé sur les tableaux. J'étais tombé sur Mike Leigh.
Qui préparait.
Et
son
du coup, j'ai compris en voyant le film, quoi. Donc, c'est un film qui est vraiment au plus proche des peintures. Et là, pour le coup, il y a une vraie vision esthétique, quoi.
Alors Raphaël, tu vas nous parler d'un autre film, c'est Alléluia.
Oui, Alléluia de Fabrice Duvels, qui est malheureusement très très mal distribué. Il y a seulement une dizaine de salles en France.
Alors ça, ouais, à Lyon, il passe au Comédia, il fonce. Je ne l'ai pas encore vu, mais il passe à des heures pas possibles, hein, 13h45 et 21h. Et il faut savoir que Fabrice Duvels, qu'on a connu en France il y a tout juste 10 ans avec Calvaire, déjà avec Laurent Lucas, est un cinéaste belge qui a malheureusement pas de chance, hein. Son deuxième film Vignane, qui se passait avec Emmanuel Béard, qui se passait en Thaïlande juste après le grand typhon, n'avait vraiment pas du tout marché. Moi j'avais beaucoup aimé, mais je lui reprochais d'être un petit peu trop court par rapport à son sujet qui était assez ambitieux, avec des influences qui allaient aussi bien au cinéma de genre horrifique, fantastique à Werner Herzog. Et ensuite il a fait un
Colt 45,
voilà, qui est passé cet été, que je n'ai pas vu. Il a été
remonté, charcuté.
Ah bon, ça je savais pas. Oui, en tout cas il était projeté qu'à la Cité internationale, donc loin
sortie technique.
Grosse sortie technique. Et là, Alléluia, bah, alors, c'est un film qui a fait les beaux jours de la caserne des réalisateurs. Hein, voilà, comme un certain Toby Hooper qui, 40 ans avant, était venu avec Massacre à la
tronçonneuse. Même journée, c'était. Alléluia, Massacre à la tronçonneuse.
Tu l'avais vu à Cannes, c'est ça?
Les deux, oui.
Non, mais tu veux dire le Alléluia.
Oui, je l'ai vu, je l'ai vu à Cannes.
Et c'est inspiré.
L'écriture de la Lune de Miel.
La Lune de Miel.
Qui a donné beaucoup de films. Le dernier en date était avec, je pense, Jared Leto et Salma Hayek aux États-Unis. Mmh. Et le film a eu pas mal de déboires aussi. Il y a un autre casting à la base. Béatrice Dalle était passée par là, Virginie Fira, avant que sa nouvelle compagne, donc Hélène Auguera, vienne aussi.
Ah, mais c'est sa compagne.
Oui, oui, ils sont ensemble depuis le film.
Ah bon.
Viennent donc s'inscrire
le
dans,
côté
dans le projet.
Voici là de Confluence Cinéma.
Ah, mais ça, c'est Raphaël.
Et puis,
hein.
et puis j'adore Hélène Auguera, quoi. C'est une, je la trouve vraiment super, quoi. Mais passons. C'est une sorte, si vous voulez, Alléluia. De...
Ah, c'est ce que
non,
tu
mais
veux dire.
C'est
elle est pas mal. J'ai pas vu le film, mais je te crois.
C'est un film de tueur en série à la Groland. c'est-à-dire, non, c'est ça.
Hein. Mais c'est déjà un peu le cas dans Calvaire, hein.
Oui, mais là, c'est encore pire, quoi, pour le coup. C'est vraiment, voilà, les mecs qui boivent avec la poire sur la table, les nappes à carreaux, les tables en formica, enfin, vraiment, la France profonde, enfin, les Ardennes profondes, puisqu'il est belge. Hein. Et donc, on suit le parcours comme ça criminel d'un couple, d'un homme qui arnaque des femmes et qui, après, les tue pour l'argent, et une femme qui va tomber littéralement, mais fou de lui, quoi, et qui va l'aider dans son entreprise criminelle, et elle sera jusqu'au bout avec lui, quoi. Et c'est un film qui est donc très, très drôle. Il y a une séquence qui est incroyable où elle doit découper un corps en fait sur une table. L'actrice d'Almodovar, dont le nom m'échappe d'ailleurs, elle va le découper, et là tout d'un coup elle se met à chanter une sorte de chanson à la Jacques Demy, et elle commence à couper le pied comme ça, une sorte de comédie musicale macabre, et ça marche mais vachement bien, quoi. C'est à la fois morbide, malsain, drôle, et pour le coup c'est vraiment un vrai grand film de genre entre guillemets en France, et il faut vraiment le soutenir, quoi. Moi j'ai trouvé ça vraiment super à tous les points.
Mais bon, j'ai pas vu le film, mais Calvaire déjà se démarquait de la production horrifique de cette époque-là, donc comme je t'en ai un peu parlé avant antenne, hein, ces films fantastiques d'horreur qui avaient pour référence ultime les films d'horreur des années 70 américaines, etc., etc. Et il se démarquait avec un univers justement branché Belgique, Ardennes, avec une photographie assez sublime du chef opérateur de Gaspard Noé,
Deby, ouais.
Deby. Et justement, je veux savoir si c'est que dans ce film-là, étant donné que j'ai pas pu voir son avant-dernier film, est-ce qu'il arrive à se défaire de ses influences ? Est-ce qu'on a enfin, pour une fois, un film fantastique, horrifique, tu vois, que je n'utilise pas le terme film de genre parce que j'aime pas du tout ce terme, hein, qui ne veut rien dire pour moi. Genre, ça définit plein de genres cinématographiques. Est-ce qu'on arrive à avoir une œuvre fantastique, horrifique, originale, qui ne fait pas forcément référence à tout ce qu'on connaît, à toute la culture horrifique que l'on vénère,
bah, c'est ce que je viens de dire juste avant, quoi. Quand tu arrives à mêler Le Groland et Jacques Demy dans un film de tueur en série dans les campagnes,
c'est pas simple, parce que c'est pas
ça
simple
marche
comme
vraiment. Ça marche vraiment. Et le public cannois était vraiment très réceptif. Il y a eu très, très bonne critique. Et je trouve qu'il s'en sort vraiment à merveille. Et moi, je suis pas vraiment un grand fan de tout ce cinéma-là, effectivement, on va dire fantastique, horrifique français, qui veut vraiment tout mettre pour le coup dans un film. Et là, lui, il arrive vraiment, quoi. Non, faut vraiment soutenir le film. Et si vous pouvez le voir au Comédia, allez-y vraiment. C'est vraiment une expérience. C'est vraiment le bon terme. C'est une expérience à vivre.
Ok. Et ben, c'est le moment pour nous d'écouter une première chanson, et on se retrouve pour discuter du film de la semaine, un petit peu la French. Thank you. Brume 90.7, deuxième partie de notre entretien Confluence Cinéma. Et on va parler maintenant du film de la semaine, c'est La French.
Oui, c'est le nouveau film de Cédric Jimenez, un Marseillais qui est né à Marseille, qui a vécu jusqu'à ses 19 ans dans cette capitale du sud de la France, hein, qui ensuite a émigré à New York et ensuite qui est revenu en France pour faire du cinéma. Il a entre autres écrit le scénario de Scorpion avec Clovis Cornillac.
Ah, du coup, il a fait un petit peu le chemin de la French Connection.
Eh ben oui,
Marseille,
oui,
New York, quoi.
Tout à fait. Alors, ce qui est bien avec ce film, La French, qui parle à peu du même sujet que la French Connection de William Friedkin, c'est qu'en fait, on a finalement un effet miroir entre les deux films. Le film de French Connection de Friedkin se passe aux États-Unis, le début du film commence à Marseille, où on explique qu'est-ce que la French Connection, hein, donc ce trafic d'héroïne, enfin c'est de la morphine qui est importée de Turquie à Marseille. À Marseille, on produit de l'héroïne et ensuite tout est transporté aux États-Unis, à New York, dans des voitures. Et donc du coup, c'est ça le début du film de Friedkin. Et le film de Jimenez, c'est l'inverse, c'est qu'on commence avec des actualités en Amérique. Voilà, on voit des extraits de Nixon à la télévision et ensuite toute l'histoire, toute l'enquête se passe en France, à Marseille. Et puis voilà, on va dire que c'est le seul point commun avec l'œuvre de William Friedkin, bien que, et Raphaël m'a contredit avec des arguments bien justes parce que lui est resté jusqu'à la fin du générique, à un moment donné dans le film, Jean Dujardin allume sa télévision, du moins la télévision est déjà allumée dans son salon, et au fond on voit sur un écran un film en noir et blanc avec une personne en train de conduire un camion.
Certain Belmondo.
Ben moi je ne l'ai pas vu, hein. Pourtant j'ai pas encore des problèmes de vue, j'ai pas vu Belmondo, et je voyais une personne dans un car.
Faut dire que je suis fan du film aussi.
Et je pensais que c'était Charles Vanel ou Yves Montand dans Le Salaire de la Peur de Clouseau. Voilà, Friedkin qui faisait c'est un remake du Cerf de la Peur. Je pensais que c'était une petite
mais
ça
référence. Peut être trop pointu quand même pour les spectateurs lambda. Ils connaissent mieux Belmondo en France quand même.
Voilà. Mais bon, t'es
resté à de Sorcerer de Friedkin.
Voilà. Et donc bon, voilà le film. Bah, ça raconte l'enquête d'un juge, en l'occurrence le juge Pierre Michel dans le film, qui va essayer de démêler justement la French Connection. Au départ, c'est déjà un juge, mais il s'occupe des mineurs. D'ailleurs, je trouve que le pré-générique est vachement bien. Un montage en parallèle entre lui qui dialogue avec une jeune toxico où il lui conjure de lui donner des informations sur son dealer et qu'il l'incite à arrêter de se droguer. Et en parallèle, on a des assassinats qui s'enchaînent en boucle. C'est vachement bien. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé avec ce film, c'est que pour une fois, on n'a pas un film policier, un polar qui vit avec ses influences d'antan. Bon, même si Raphaël en a décelé quelques-unes, hein, je veux dire, voilà, on n'a pas un film à la Melville, on n'a pas forcément un film à la Henri Verneuil. On a enfin un film un peu neuf, un peu plus contemporain, fait par un metteur en scène qui connaît cette région de Marseille, qui n'a pas usé des stéréotypes, qui a su, et là je pèse mes mots, pour moi c'est la grande réussite du film, composer un casting extraordinaire. Tous les seconds rôles sont vraiment géniaux. Tous les acteurs au second plan qui, à première vue, sont, on va dire, banals à l'intrigue, servent avec une justesse inouïe. On les retrouve au début, au milieu, à la fin. Et voilà, j'ai trouvé vachement bien. Et surtout, c'est Jean Dujardin qui... Un acteur que j'ai beaucoup apprécié, mais pour ses rôles comiques. Hein, je ne l'ai jamais vraiment apprécié dans ses rôles dramatiques. Pour moi, la grosse catastrophe dans sa carrière, c'est son rôle dans Contre-enquête, qui est pour moi un film horrible, un film nul, un film fasciste. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Et là, je trouve que depuis son Oscar, depuis son succès international, il s'est un peu bonifié. Il a passé la quarantaine, il est plus sérieux et je l'apprécie mieux maintenant dans des rôles dramatiques. Je trouve dans ce film, il est extraordinaire et sa confrontation avec Gilles Lelouch, qui est son ami dans la vie, est vraiment très très juste. Et contrairement à ce que les affiches peuvent le dire, les bandes annonces peuvent le dire, c'est pas un duel sur 2h45 entre Gilles Lelouch et Jean Dujardin. Donc Gilles Lelouch qui joue le parrain qui s'appelle Zapata.
Non, Danny Zampas.
Danny Zampas, pas Zapata.
Qui est le grand, qui est l'un des plus grands quais marseillais, effectivement, de l'époque, voilà. Avec Francis Lebelge, Jacques Imbert.
C'est pas un duel entre ces deux personnes, hein, entre ces deux personnes antagonistes.
C'est contre un système.
C'est contre un système, voilà. Parce qu'après, on va se rendre compte que là, il y a
les politiciens, Gaston Defferre.
Et il y a aussi ce petit truand qui est interprété par Benoît Magimel, qu'on voit pas assez, je trouve, et c'est un peu malheureux parce qu'il est vachement bien dans le film.
Mais surtout que le personnage principal, enfin, le personnage dans lequel il s'inspire est vraiment très important.
Oui, et qui s'appelle dans le film le fou. Hein, et qui
en réalité, c'était le maître, hein, le fou, ce qui est donc un nom provençal qui veut dire le fou. Hein.
Et qui ensuite va devenir l'immortel parce qu'il dans le film,
c'est ce qu'on voit dans le film justement très mauvais de Richard Berry avec Jean Reno, qui retrace l'histoire de
Je crois que dans le film, c'est Gad Merad
qui joue Tanis en part.
Et dans la,
c'est comme De Funès qui jouera Vito Corleone, si tu veux, dans le film L'Immortel.
Ah oui, mais ça, les bons acteurs savent tout jouer.
Justement, Gad Merad est-il bon acteur? Mais ça, c'est un autre débat.
C'est un autre débat. Mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment une réussite. C'est pas forcément un film que j'avais aux abords envie de voir. Et j'ai vraiment pas été déçu. Et il y a aussi quelque chose qui m'avait vraiment fait un peu peur dès le début du film. Hein. D'ailleurs, on en parlait quand on voyait les bandes annonces, la confrontation sur le bord de plage. Alors, ça fait référence à Casino, la discussion entre De Niro et Joe Pesci. Et je trouve que finalement, il n'y a pas tant d'influence que ça. Il a bien su gérer ses influences. On n'est pas sous influence américaine, bien que le début, on a un montage en parallèle avec de la musique un peu rock, les images de New York, ça fait penser à du Scorsese. Mais je trouve que là, en mettant quelques musiques françaises de l'époque, il a su s'en défaire et livrer une œuvre, une œuvre française, une œuvre, un bon polar, un bon policier à la française, authentique, neuf et original.
Ben moi, pour le coup, c'est un film que j'attendais beaucoup. J'ai effectivement, moi, grandi avec les films de Jean-Paul Belmondo, les films du dimanche soir, et c'est un terme pour moi qui est très très noble, les vrais grands films populaires d'autrefois qu'on a vraiment perdu, je pense, la tradition. Et je remercierai jamais assez Jean Dujardin pour avoir ramené tout ça, grâce justement au SS-117, même grâce à The Artist, qui était aussi une autre branche d'un cinéma populaire américain.
Dujardin ou Azanavicius?
C'est un peu les deux, et je me rends compte que Dujardin est très important, justement, quand je vois The Search la même semaine, que c'est vraiment une volonté de Dujardin, même Brice Denis, si on va même dans un autre genre, c'est quelqu'un qui, je pense, est un vrai enfant comme Belmondo, et on le sent dans la French, on sent le plaisir enfantin à jouer aux gendarmes et aux voleurs, quoi. Et en plus, il est avec ses potes, et ça, je trouve ça admirable. Le mec, il a gagné un Oscar, il fait des carrières maintenant internationales. Il a tourné pour Scorsese, pour George Clooney,
pour Nespresso.
Oui, mais voilà, mais enfin, il a quand même un succès, voilà, quand même assez important, quoi. Et le mec, il n'oublie pas d'où il vient, il met ses potes des Nous, c'est nous, on retrouve Eric Collado, qui joue l'un des bras droits de Tanis Zampa. On retrouve Arsène Mosca avec qui il a tourné Palizzi. On retrouve tout ça et on retrouve cet amour du genre, cet amour d'autrefois, voilà, les rouflaquettes, les gitanes, les déesses.
Parce que c'est l'époque aussi. L'époque.
Oui, mais on sent que c'est pas anodin, quoi. Il a choisi cette époque-là aussi, quoi. Ce sujet-là, il a été rattaché avec Azanavicius à un projet qui s'appelait Les Frères Guérini avec Dupontel avant The Artist, qui malheureusement n'a pas vu le jour. Hein. J'aimerais bien qu'il le fasse à jour. Donc c'était plus la branche années 40 de la mafia marseillaise. Et là, voilà. Il recrée tout ça et on sent l'hommage à Belmondo vraiment appuyé. Voilà, Belmondo est présent dans une petite signature, je trouve que c'est très malin. Et les références sont vraiment super bien digérées. On retrouve, voilà, le cinéma français de Boisset, de Verneuil. On retrouve ces grands juges incorruptibles comme on les avait autrefois. On retrouve des vrais bons hommes.
Mais avec un œil fin, ce que je dis. Voilà.
Oui, exactement, avec un vrai regard d'aujourd'hui.
Justement, ça aurait été que des influences du cinéma de Verneuil et toute la clique de Boisset. On se serait dit, ah super, encore un film référence.
Oui, mais c'est très bien digéré. Et c'est post-moderne là, pour le le coup, et ça marche très très bien. Voilà, moi quand je vois Gilles Lelouch, effectivement je pense à Ventura, quoi. Il a ce côté bestial, ce côté très massif, très masculin, très viril, et ça me plaît forcément. D'autant plus que le film cite ouvertement, voilà, des tas de grands films de gangsters américains. Le début, c'est Scorsese avec toutes ses éliminations,
la musique rock,
voilà, le montage ultra cut, voilà.
Et il en fait dure 5 minutes, hein.
Oui, mais il y a même la structure, je veux dire, le face-à-face qui peut rappeler quand même Hit, ils se rencontrent une seule fois au milieu du film, ou Borsalino même dans la tradition française avec, avec Bébel et Delon, quoi. Et il y a aussi le dernier plan qui rappelle Les Incorruptibles. Et moi, c'est tout le cinéma que j'aime, donc je peux pas être objectif.
Moi, le dernier plan, si, tu peux être objectif. Moi, si. T'aimes ce cinéma-là, t'aimes ce film forcément. Non,
mais à la base, ça peut me complaire. Mais,
tu parles justement du dernier plan, les Incorruptibles. Moi, ça me rappelle un autre film que tu n'as pas vu et que je te conseille de voir. C'est Infernal Affairs, hein, qui ensuite va inspirer Scorsese pour les infiltrés.
Il l'a pas vu, Scorsese, par exemple.
Oui, mais ça, j'y crois pas du tout. Alors, cinéphile comme il est, il a peut-être dû le voir après le film.
Après, oui, il l'a vu après.
Mais c'est les scénaristes qui ont vu le film, hein, je pense que.
Alors, mais en tout cas, voilà. Mais voilà. Il y a quand même. Je suis quand même. C'est un peu comme Marshall pour moi, ce film. Il y a beaucoup de défauts.
Je trouve pas.
Il y a quand même beaucoup de défauts. Voilà, le film parfois en fait un peu trop. C'est paradoxal. Des fois, il en fait trop et des fois, il manque d'ampleur. Des fois, il est un peu prétentieux et des fois, justement, il va pas assez loin, peut-être dans le côté, voilà, comment on pourrait dire, cliché des gangsters. On voit les boîtes de nuit, tout ça, mais encore plus, ça aurait été bien, je pense. Tu vois.
Ça aurait peut-être été trop. Hein.
Ça dépend. Après, les spectateurs feront leur avis, mais je pense que des fois, ils peuvent trouver ça un peu too much et des fois, pas assez.
Et les défauts, oui, je pourrais en souligner un, c'est quelques scènes, quelques schémas narratifs, astuces narratives.
Il y a des raccourcis.
Pour annoncer ce qui va arriver, je veux dire, voilà.
Même sur la réalité.
La femme qui dit à Justin, attention, hein, t'en fais un peu trop, hein, tu pourrais te brûler les ailes, attention. Hein. Et le coup de l'horloge, bon.
Mais oui, c'est des mises en scène parfois un peu hâtives, quoi. Mais il y a quand même une telle volonté, une telle envie de recréer ce grand cinéma populaire français qu'il faut soutenir ça, quoi. Enfin, tout simplement. Bah, pour moi, en tout cas.
Oui, bien sûr.
Ok, messieurs, bah, écoutez, merci beaucoup pour cette analyse complète de la French, et on va écouter un second morceau de musique et se retrouver pour parler d'un grand réalisateur, acteur, metteur en scène, c'est Elia Kazan. I'm feeling alone when I'm in town. My heart is stuck on the red line.
Endeavor to feed alive forever, never, no matter. We dealing with this together, whatever the weatherman say. We shine like divine through the rise and decline, moving at the same time. Now we ebbing to a flow, rhythm beating like a summary. Down upon your face, scream for to watch the pain away. Wickedness will fade into the background. Scenery ever changing so silently. Still, I protect my liberty. Listen quietly, ask the team what it means to me. Never wanted a place to be vivid, ever so clear to me.
Brume 90.7, dernière partie de ce Confluence Cinéma. Et c'est le moment pour nous de revenir sur la carrière et la vie d'Elia Kazan.
Oui, oui, profitons de cette rétrospective qui a lieu à Institut Lumière jusqu'au début de l'année prochaine, avant d'enchaîner sur un cycle Warner Herzog. J'ai envie de dire quelques mots sur Elia Kazan, qui est un cinéaste que je découvre petit à petit grâce à cette rétrospective. Il est né en 1909 en Turquie et il va immigrer aux États-Unis 3 ans plus tard. Il va devenir vraiment un Américain patriote, comme le sera Frank Capra, amoureux de ce pays, de cette patrie qu'il a accueilli. Et il va, après ses études, pas commencer par le cinéma, mais par le théâtre. Raphaël reviendra là-dessus juste après. Il va déjà adapter Tennessee Williams et un tramway nommé Désir au théâtre. Après va arriver le cinéma. Et 48, donc il va mettre un peu de temps. Il va commencer à faire le film début des années 40. En 48, il va faire Le Mur Invisible, qui va être son premier Oscar en tant que réalisateur. Donc ça va devenir un metteur en scène très connu et très coté. Dès sa première collaboration avec Marlon Brando pour un Tramway des Désirs, la version cinématographique. Marlon Brando, comme vous ne l'avez jamais vu, nouvelle apparence du sexe à pile masculin, torse bombé, t-shirt moulant blanc, voilà, gros succès. Et à partir de 1952, malheureusement, Kazan va être mis sous les projecteurs à cause du macartisme. Il va dénoncer plusieurs scénaristes et réalisateurs qui étaient sur liste rouge, qui étaient considérés comme communistes. À l'époque, voilà, être communiste, c'était mal. Et donc, du coup, il y avait une atmosphère anticommuniste à Hollywood qui s'est ensuite traduite dans les films de science-fiction de cette période-là.
Alors, il faut quand même savoir, pour resituer historiquement, que du coup, ce sénateur McCarthy, à un moment donné, c'était ce qu'on appelait la chasse aux sorcières, donc il visait les communistes, mais tout ce qui pouvait aussi, selon lui, amener un danger quelconque vers la nation. Donc ça pouvait être des gens légèrement à gauche, ça pouvait être des gens qui se battaient pour les droits civiques, enfin ça englobait quand même. Et donc Hollywood était quand même un des endroits qui visionnait le plus, enfin en tout cas qui l'analysait, parce que pour lui, la majorité des réalisateurs, des acteurs, etc., étaient des gauchistes et des gens qui étaient en opposition avec l'État américain. Enfin en tout cas, c'est ce qu'il disait.
Alors, pour le cas de Kazan, Kazan a toujours été quelqu'un de gauche. Il a, à la fin des années 30, été adhérent au Parti communiste pendant 18 mois. Et au bout de 18 mois, il va être exclu, car suite aux atrocités commises en ex-URSS, il va porter des jugements. Il va s'opposer à certaines choses qui étaient dites dans le parti. Il va être exclu à une voix, quelque chose comme ça. Donc, il l'a très mal pris. Et quand il a fallu dénoncer des gens... il n'a pas dénoncé, il n'a pas dénoncé comme on dénonçait en 42, Madame Jacob, Madame Cohen dans un quartier de Paris. Non, il a dénoncé des gens qui étaient déjà sur liste du FBI, qui étaient déjà enseignés, c'était pas des inconnus. Et lui, c'est ce que dit Michel Simon, qui est venu il y a quelques semaines faire une conférence de presse. Qui Michel Simon, lui, plus à gauche que lui, vous ne pouvez pas trouver plus à gauche que lui. Pourtant, c'était un grand ami de Kazan. Il ne défend pas le fait que Kazan ait dénoncé, parce que c'est pas forcément bien de dénoncer des gens, mais qui aurait fait autre chose à sa place. Et dans le cas de Kazan, c'était vraiment de dénoncer quelque chose qui était considéré comme à l'époque, à savoir le communisme en Russie, où on faisait des choses qui n'étaient pas plus horribles que le nazisme, voilà, où on dénonçait des gens, on les emmenait en goulag et on les tuait. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre la démarche de Kazan. Et Kazan va s'en vouloir.
Ce qui est quand même odieux, c'est le fait justement qu'en disant ça, en faisant ça, il jouait complètement le jeu de McCarthy et de tout le gouvernement américain, parce qu'à un moment donné, ces gens-là, des communistes purs et durs qui soutenaient l'URSS, qui voulaient instaurer un régime stalinien aux États-Unis, c'était peut-être 1% des gens sur les listes, quoi. C'est-à-dire que les 99% des gens sur les listes, c'était des gens juste qui avaient une sensibilité politique un petit peu marquée, qui avaient des idées, on va dire, assez libérales, etc., quoi. Donc, moi, je suis pas du tout d'accord avec cet argument-là. Mais...
Le problème, c'est qu'en fait, effectivement, c'est ce que disait Simon également, c'est qu'en fait, l'un des responsables, c'est pas effectivement Kazan. Bon, voilà, on peut penser ce qu'on veut de Kazan. Effectivement, ça peut être discutable. Lui, il va s'en vouloir, même si je pense que c'est un peu le bouc émissaire, que voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais les fautifs, pour moi, à l'époque, c'est les producteurs, parce que les producteurs, c'est des gens indépendants. À l'époque, les grands studios, ils pouvaient très bien dire aux politiques, on s'en fout d'autres politiques, on garde nos scénaristes, on garde nos réalisateurs, même si on est communiste. Bon, voilà, moi, je pense que les producteurs américains de l'époque-là sont fautifs également. Bref, ceci dit, juste après ça, il va faire un film qui s'appelle « Sur les quais » que j'ai découvert il y a une semaine. Donc, également, Marlon Brando, qui va jouer un docker hein, au port de New York, qui est corrompu par une mafia locale, qui est également dirigée par un politicien. Et le personnage de Brando, qui sympathise un peu avec cette mafia, mais pas tellement, qui va être l'un des acteurs d'une dénonciation et d'un meurtre, va être ensuite dans le film, être amené à dénoncer hein, ces personnes-là lors d'une commission. Ce qui va être mal perçu par les docs. Et à la fin, il y a une séquence très christique où le personnage, après s'être fait tabasser, revient sur. Décide d'aller retravailler et gagne la sympathie des personnes qui, au départ, l'avaient lynché. Et grâce à ce film-là, que personne ne voulait produire, Kazan va gagner un succès énorme, 8 Oscars, meilleur réalisateur, meilleur film. Et les gens vont, comme par hasard, lui pardonner. Il va. Et retrouver un petit peu une certaine rédemption, même si cette étiquette de dénonciateur va lui coller à la peau. Jusqu'en 99, quelques années avant qu'il meure, il va recevoir un troisième Oscar, c'est-à-dire un Oscar d'honneur pour sa carrière. Et bien sûr, il y aura eu des grosses polémiques là-dessus. Mais c'est un metteur en scène. Je découvre sa filmographie au fur et à mesure. C'est vraiment enrichissant. Il y a un film qu'il faut... Donc, il y a America, America, qui va être projeté dimanche prochain à 19h. Un film de pratiquement 3 heures sur... la vie de son grand-père, donc des Turcs qui viennent aux États-Unis. À l'époque, donc, on est dans l'esprit Le Parrain 2, Immigrant. Et un autre film que j'ai envie de voir, qui est apparemment l'un des tout premiers films qui va traiter la guerre du Vietnam. Quand on parle film de la guerre du Vietnam, ah bah, on parle de Apocalypse Now, on parle de Voyage au bout de l'enfer comme étant l'un des premiers. Bah, pas du tout. En 72, il va réaliser Les Visiteurs dans sa ferme de campagne en 16 mm avec une équipe ultra réduite, 12 000 $ à peine. Avec un jeune premier, James Wood. Et donc voilà, c'est le retour, qui à l'époque n'était pas connu, c'est le retour de jeunes soldats qui reviennent dans leur maison de campagne. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Elia Kazan.
Alors il y a quand même un grand film dont on peut parler, oui. Donc, qui a eu, été réalisé un an après sur les quais, il me semble, c'est À l'Est d'Éden avec, avec James Dean. Alors, je ne sais pas si l'un de vous deux a envie d'en dire un mot.
Bah, vas-y, vas-y.
Moi, je l'ai vu il y a longtemps. Alors, je ne pourrais pas trop en parler. Je crois que c'est le dernier film de James Dean avant qu'il se crache.
Non, c'est Géant.
Ouais, c'est Géant. Je ne sais pas, en ayant lu quelques livres sur Kazan, je ne sais pas si c'est un film assez important que ça dans sa carrière. Enfin, bah, comparé à Baby Doll.
C'est vraiment important parce que déjà parce qu'il y a James Dean. Quoi, donc, c'est devenu quand même un mythe, ce film, avec ça. Et aussi parce que c'est un film... Alors, moi, je l'ai vu il y a très longtemps, mais où là il place les relations familiales, en fait, au centre des débats. Ça se passe dans une ferme, il me semble, et c'est l'histoire de deux fils, deux jumeaux, dont la mère est partie à la naissance, et l'un des deux jumeaux vit très mal, à la fois le départ de sa mère, sa relation avec son père, enfin, c'est quelque chose comme ça, de très familial, sur des schémas, sur des douleurs, sur les rapports d'un enfant avec ses parents, et James Dean est assez extraordinaire là-dedans, et moi, j'en ai des souvenirs quand même comme d'un très bon film.
Non, moi, ce qui me touche surtout, moi, chez Elia Kazan, c'est le côté actoral.
Je suis un grand passionné
par les acteurs, et Kazan est quand même un père fondateur d'une génération entière. Quand même.
Et il a co-créé l'acteur studio.
Il a d'abord créé ce qu'on appelle le groupe Theater dans les années 30, avec deux personnages très intéressants et très importants dans la culture actorale, que sont donc Stella Adler et Lee Strasberg, que sont en fait les mentors, les professeurs plus tard d'Al Pacino et de Niro, par exemple. Et il y a aussi un metteur en scène qu'aime beaucoup Amaury, moi d'ailleurs, on en parle souvent ici, c'est Sidney Lumet, qui a participé à l'aventure aussi du groupe Theater dans les années 30. Hein. Il était aussi metteur en scène avec Kazan, et ils ont notamment mis en scène des pièces de Tennessee Williams, d'Arthur Miller aussi, Voyage d'un commis voyageur. Itinéraire, je ne sais jamais comment il s'appelle.
Itinéraire d'un commis voyageur.
Voilà. Donc mis en scène pas mal de fois par Kazan. Et là, il va mettre, par conséquent, un nouveau type d'acteur basé sur la méthode de Stanislavski. Hein, donc une méthode qui vise à s'approprier les émotions en fait, par des... états sensoriels, des états de mémoire en fait par rapport à son propre vécu, et donc des acteurs, tu l'as très bien dit, Marlon Brando va notamment émerger dans cette tradition là hein, qui va donner plus tard donc l'acteur studio hein. Donc un nouveau type d'acteur beaucoup plus masculin, beaucoup plus beaucoup plus félin, beaucoup plus dans la réalité hein, beaucoup plus sexué aussi, beaucoup plus fragile. Et donc, plein d'acteurs vont émerger. James Dean, par exemple, c'est évidemment le cas. On peut citer Montgomery Clift, aussi dans la même génération. Paul Newman. On peut citer Carl Malden, aussi, qui va tourner à l'époque avec, dans un autre genre.
Bah,
avec,
qui joue dans, sur les quais. Hein.
Exactement, dans pas mal de casans. Aussi Rod Steiger, qui était un peu l'anti-Brando, pour le coup. Il n'était pas beau, il était... plus normal, plus un peu la Gandolfini quelque part, un peu avant l'heure, quoi. Beaucoup plus trapu, beaucoup plus voilà, masculin. Et l'histoire va plus retenir du coup Brando que Rod Steiger.
Et du coup, ça va donner un petit changement dans la conception des films. C'est que, voilà, avant cela, les acteurs étaient considérés comme du bétail, d'où la citation d'Hitchcock, et c'était le cas
l'acteur
de beaucoup
matériel,
de personnes.
Ouais.
Et après cela, bah, l'acteur va un peu renverser la situation. C'est qu'on va commencer à innover et à créer une mise en scène en fonction de l'acteur. Ce que
devient auteur, quoi,
notamment dans L'homme à la veste de serpent.
Oui, avec de Brando. Oui.
Brando, où voilà, il y aura une mise en scène vraiment taillée, sur mesure, pour le personnage de Brando, de la façon où il se déplaçait. Et d'ailleurs, on cite Hitchcock, c'est vrai que Hitchcock a eu beaucoup de problèmes sur le rideau déchiré avec Paul Newman. Paul Newman, issu de l'acteur studio, Paul Newman n'arrêtait pas d'harceler Hitchcock sur des questions de jeu, et Hitchcock en avait tout simplement rien à foutre. Et donc, du coup, ça s'est très mal passé. Et là-dessus, c'est sa seule collaboration avec un acteur issu de l'acteur studio.
Et Kazan, justement, va mettre, on va dire, en scène cette première génération d'acteurs issus de l'acteur studio. Et tu l'as très bien dit, il va mettre après en scène des gens comme James Wood ou bien De Niro. Il va tourner son dernier film, Le Dernier Nabab, que j'aime beaucoup, hein, qui est un film hollywoodien sur les coulisses, qui retrace l'histoire d'un mogul. Hein,
avec Jack Nicholson et Jeanne Moreau.
Et Nicholson joue Howard Hughes avant le film d'Aviator de Scorsese. C'est un peu la même base, quoi. On retrouve un peu tous ces manias-là. On retrouve un peu les liens avec la politique, le lien justement avec le communisme, le lien d'argent, les banquiers, etc. Et c'est un film qui est passionnant. Et encore une fois, il va mettre en vedette De Niro, qui à l'époque émergeait complètement. On est en 76, et c'est là où il va exploser après avec Taxi Driver, même année, quoi.
Ok, messieurs, et écoutez. Merci beaucoup pour cet éclairage sur Elia Kazan. Avant de nous quitter, Hakim,
oui, alors deux mots rapides sur Michel Simon. Déjà qu'il viendra le week-end du 12, du 13 et du 14 décembre pour présenter trois films d'Elia Kazan.
Il vient tout le temps, dis donc.
Il vient tout le temps récemment, ouais, pour présenter un documentaire sur ce qu'il a fait sur Kazan, Baby Doll et Les Visiteurs.
Celui de Scorsese, il y est aussi, hélas.
Il a été projeté une fois.
D'accord.
Et là, je voudrais parler très rapidement d'un livre d'entretien qui est sorti sur lui, qu'il a réalisé avec un autre rédacteur de Positive, donc Bean. Et donc, du coup, c'est un livre d'entretien qui retrace toute sa carrière, donc une carrière de critique de cinéma qui Stallone sur 50 ans, ses débuts en tant qu'historien, professeur d'anglais, sa contribution au Masque et la Plume, son émission privée, également sa collaboration à des documentaires sur Kazan, ses livres sur Rossi, sur Kubrick, sur John Boorman, son goût pour l'art en général, la peinture, la littérature, la politique. D'ailleurs, il ne se cache pas d'être une personne de gauche et très ancrée contre le fascisme, et sur le racisme, enfin tout l'antitotalitarisme, etc. Et moi, c'est un livre très passionnant à lire. Le seul bémol que je mettrais, c'est que ce n'est pour moi pas un livre très objectif, dans le sens où il a été conçu et réalisé par une autre personne, un autre collègue à lui de Positif, et que tout le long, on a beau le dire que Positif, contrairement au cahier du cinéma, même s'il précise que voilà, cette guéguerre entre les cahiers et Positif n'existe plus trop maintenant, parce que maintenant ils sont en bonne entente. Mais à lire le livre, on a l'impression que Positif est une revue qui a toujours eu juste, n'a jamais dit de mauvaises choses, et que a contrario, Michel Simon a toujours lutté au sein de la rédaction contre les préjugés. À l'époque, quand il est arrivé, on était anti-Godard, on était même à l'époque anti-Clint Eastwood. Lui, il a toujours dit non, moi, quand je considère qu'on est injuste, je me mets du côté des méprisés. Voilà. Et bon, voilà. C'est un très bon livre à lire. Et dans le livre, il y a un DVD, un documentaire qui a été réalisé sur Michel Simon, qui s'appelle Le cinéma en partage également, qui est, ma foi, assez symbolique. C'est très intéressant. C'est un complément au livre. Donc, si vous aimez Michel Simon, même si vous ne l'aimez pas trop, parce que c'est une personne très controversée, si vous aimez la critique, savoir comment est un critique de cinéma.
Surtout la cinéphilie, quoi.
La cinéphilie, il faut lire ce livre. C'est vraiment, ça se lit très rapidement et avec délice.
Ok.
Édition Rivage.
Eh bien, écoute, merci à Hakim, merci Raphaël. On se retrouve dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on aura de beau au programme?
Le dernier volet de The Hobbit.
Voilà, on va voir
donc,
ce que ça vaut.
Donc, c'est le gros, comme de la semaine prochaine.
Et on va essayer de trouver deux, trois films.
Oui, oui, bah, il y a bien des choses.
Par contre, il est assez long, encore une fois. Donc,
2h20.
Chroniquer pour mercredi prochain, en tout cas.
On essaiera de guetter les avant-premières.
Et moi, avant Noël, je vous parlerai aussi du film qui va sortir tout début janvier et que j'ai beaucoup aimé, à contrario de certains collègues. C'est l'affaire SK1 qui revient. On parlait la semaine dernière des grands films sur les tueurs en série. Et ben, moi, je trouve que c'est un grand film français sur un tueur en série. Guy Georges dans les années 90 avec Raphaël Personnaz, et on aura l'occasion aussi d'écouter du coup une interview. Mais avant ça, on se retrouve mercredi prochain pour parler cinéma sur Brume 90.7. Très bonne semaine.